Ceux qui sont ici et qui regardaient en ligne, nous continuons une série de la conversation 2 Corinthiens. Et le titre de ce message, on va lire le message. Est-ce que vous pouvez... Merci de vous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis, qu'il demeure circoncis. Quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis, qu'il ne se fasse pas circoncire. La circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Que chacun demeure dans l'état où il était alors qu'il a été appelé. As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Car l'esclavage qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi. L'esclave qui a été affranchi du Seigneur, du même l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été racheté à un grand prix. Ne devenez pas esclave des hommes. Que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Restons debout pour la prière. Et Père, nous te remercions encore une fois pour ta parole que tu as préservée pour nous. Nous te remercions, Jésus, parce que tu es présent au milieu de nous par ton esprit pour nous enseigner. Et nous prions que tu puisses ouvrir nos oreilles pour écouter, disposer nos esprits pour entendre, comprendre, nos cœurs pour recevoir ta parole. Et accorde-nous la grâce de vivre selon cette parole. Nous te demandons cela au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, je vais commencer avec une question. À quel point le statut est-il important pour vous et moi? Quel genre de statut seriez-vous prêt à acquérir au prix d'un grand sacrifice? Le statut est le rang, la position ou la situation d'une personne par rapport aux autres. Nous regardons horizontalement et déterminons notre valeur et notre mérite en nous comparant aux autres. Comment avons-nous tendance à classer notre statut dans le Grand Vancouver? Voici la liste qui n'est pas exhaustive, mais la carrière professionnelle, accumulation des richesses, réseautage sociaux, adhésion à des clubs sociaux, diplôme universitaire, santé, apparence physique, aptitude athlétique, talent artistique, compétences linguistiques, affiliation religieuse, origine ethnique, nationalité, bénévolat, philanthropie. En tant que disciple de Jésus, devrais-je consacrer une énergie significative à améliorer mon statut? Comment est-ce important? Est-il acceptable d'embellir mon statut pour améliorer la perception que les autres ont de ma valeur ou de mon importance? Et si je ne peux pas changer mon statut? Pour beaucoup de gens, cela a été vrai tout au long de l'histoire. Si je ne peux pas changer mon statut, suis-je condamné à une existence misérable et dénuée de sens? Existe-t-il un moyen d'échapper à cette quête incessante du statut? À la lumière de notre façon de concevoir le statut en Amérique du Nord et dans la grande partie du monde, Paul fait une déclaration choquante, non pas une fois, mais trois fois en huit versets. Verset 17. Que chacun vive selon la condition que le Seigneur lui a assignée, selon l'appel que Dieu lui a adressé. Verset 20. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Verset 24. Ainsi, frères, que chacun demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Cela signifie-t-il qu'un disciple de Jésus ne devrait pas changer d'emploi, poursuivre des études supplémentaires, rechercher le mariage s'il est célibataire, à accepter des promotions, acheter une maison ou changer de ville. On demeure juste là où nous sommes. Ok, examinons ces versets plus attentivement. Les versets 17 à 24 sont au centre de la conversation plus large que Paul sur le mariage, le divorce et le célibat au chapitre 7. Ces versets fournissent la justification théologique de ces instructions pour Et voilà, voici la structure de notre passage. Il répète les principes, l'illustration socio-légale et avec une exception, puis il revient au principe de base. Sans aucun doute, le mot clé de notre passage est le verbe « appeler ». Il apparaît 8 fois. Paul a à l'esprit l'appel de Dieu à des gens comme vous et moi, au salut, c'est-à-dire à une nouvelle relation avec lui. C'est un appel qui transcende et transforme toutes les circonstances externes. Paul a d'abord parlé de cet appel au salut dans 1 Corinthiens 1:9. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Nous avons été appelés en relation avec Jésus et demeurés en lui en communion avec. Dans 1 Corinthiens 7, 17, Paul écrit que chacun vive selon la condition que le Seigneur lui a assignée, selon l'appel que Dieu lui a adressé. Telle est la règle que j'établis dans toutes les églises. Peut-être Paul a entendu des Corinthiens et a arrêté d'être injuste. Alors Paul dira en réponse, en réalité, ce n'est pas un conseil ad hoc propre à Corinthe, mais c'est pour toute l'Église partout. Et quel est le conseil? Dieu nous appelle de différents, nous tous qui venons de différents endroits, différentes familles, contextes matrimoniaux, niveau économique varié dans la société, Dieu n'estime pas qu'un État ait plus de valeur qu'un autre. Si nous sommes disciples de Jésus, notre identité a été radicalement transformée et notre situation dans la vie, quelle qu'elle soit, et aussi difficile qu'elle soit-elle, est devenue une opportunité de vivre notre vocation chrétienne. C'est pourquoi Paul dit, demeurez comme vous êtes. Demeurez tel que vous êtes. Il le dit 3 fois. Vivez votre disciple dans votre situation de vie actuelle, désormais sanctifiée par l'Esprit. Pour illustrer son propos, il évoque probablement le marqueur le plus significatif des statuts éthiques et religieux pour les Juifs. Verset 18. Quelqu'un a-t-il été appelé étant déjà circoncis? C'est une question rhétorique parce que il y avait des juifs et des non-juifs à l'église de Corinthe. Qu'il ne cherche pas à dissimuler sa circoncision. Le verbe « dissimuler » est un terme médical décrivant une procédure marquant l'apparence physique de la circoncision. Voyez-vous, à Corinthe était une colonie romaine. Les Romains méprisaient la circoncision. Alors, un chrétien juif, maintenant devenu chrétien, il peut penser il doit cacher sa circoncision. Pourquoi? Et au bain public, chaque fois qu'un juif se rendait au bain public ou au gymnase municipal, tout le monde savait qui était juif. Alors, les chrétiens juifs, désormais, pourquoi un chrétien juif ne devrait-il pas chercher à le faire? Parce qu'il avait une nouvelle identité en Christ. Il avait un nouveau statut en Jésus. Il ne pouvait pas progresser spirituellement en inversant la circoncision. Ok, alors, les gentils dans les églises, les non-juifs, quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis? Qu'il ne se fasse pas circoncire. Un chrétien gentil pourrait chercher à se faire circoncire afin d'améliorer son statut religieux en tant que vrai fils d'Abraham, un chrétien gentil pourrait ajouter des lois alimentaires juives, les sabbats, ou bien le langage, le pèlerinage du temple ou les cantiques hébreux, différentes façons, tentatives pour mieux se faire accepter parmi les frères et sœurs juifs. Et Paul dit, vous n'êtes pas juif, vous ne renforcez pas votre statut en Christ, ni ne progressez spirituellement en vous conformant à l'extérieur aux lois religieuses. Les statuts ethno-religieux ne comptent pour rien à Dieu. Quelle est l'application pour nous aujourd'hui? Nous n'avons pas à devenir juifs pour être acceptés pleinement dans la famille de Dieu. Aussi à Willingdon, si vous êtes brésilien, vous n'avez pas à danser le K-pop. Et si vous êtes sud-est asiatique ou africain, vous n'êtes même pas obligé de joindre la danse de l'unité, comme les Africains ou comme les... Vous n'avez même pas besoin de danser. Vous pouvez être libre. Et si vous ne comprenez pas ce que je dis, et peut-être que vous n'étiez pas à notre festival de Pentecôte, ne manquez pas ça la fois prochaine. Ça, c'est une photo secrète que j'ai trouvée dans le groupe des Mennonites. C'était phénoménal. Ah, pourquoi les gentils ne devraient-ils pas essayer de devenir juifs? Car la circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien, mais observer les commandements de Dieu est tout. Pour nous, c'est une déclaration stupéfiante pour un juif comme Paul. La plupart de ses compatriotes juifs auraient dit, de quoi parles-tu? La circoncision est tout. Pour un juif, la circoncision était la marque la plus claire et visible de l'alliance de Dieu avec Abraham et sa descendance. C'était le marqueur d'identité qui séparait le peuple élu de Dieu du peuple païen environnant. Elle donnait aux Juifs une position particulière devant Dieu. Comment Paul pouvait-il dire tout cela? En tant que disciple de Jésus, Paul voit clairement l'appel de Dieu à placer sa foi en Jésus annule toutes les anciennes classifications qui attribuent de valeur aux personnes en fonction de leur ethnicité. Quoi que nous puissions faire pour nous faire accepter à cause de la classe sociale, du sexe ou de n'importe de statut rationnel, Dieu accepte les Juifs et les gentils tels qu'ils sont. Galates 3, 26-29. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Le commandement de Dieu de pratiquer la circoncision masculine comme signe de son alliance avec la descendance d'Abraham avait pris fin. Les Juifs pouvaient rester Juifs, les gentils pouvaient rester gentils. Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Rien de plus que nous faisons, c'est marier, rester célibataire, faire des études, acquérir des marqueurs religieux externes, obtenir une promotion n'ajoute rien à notre position devant Dieu. Paul écrit dans Romains 3, 28, 30, car nous estimons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi, ou bien Dieu est-il seulement Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Nous sommes sauvés par la grâce seule, par la foi seule, en Jésus-Christ seul. Si nous permettons une quelconque forme de recherche des statuts dans la famille des dieux, la grâce des dieux comme voie de salut est sapée. Et la voie du salut par les œuvres si nous, nous, nous si nous le faisons, nous croyons à une autre évangile. Cependant, nous sommes sauvés par la foi et l'homme, pardon, par la seule par la foi, par la grâce et par Jésus. C'est pourquoi Paul écrit dans 1 Corinthiens 7:19, car la circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien, mais observer les commandements de Dieu est tout. Ce qui compte maintenant, c'est de vivre selon la voie de Jésus, par amour pour lui. Pas une façon d'acquérir le salut, de mériter le salut, mais comme une réponse à la grâce de Dieu. Et que Jésus a-t-il commandé? On peut dire beaucoup, concentrons-nous sur toute une chose, beaucoup pourraient dire, mais pour aujourd'hui, soutenons-nous dans le passage des grands commandements et la grande commission. Lorsqu'un chef religieux demanda à Jésus d'identifier le plus grand commandement des Écritures hébraïques, Jésus répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Donc, aime Dieu de tout ton cœur, aime ton prochain autant que toi-même. Juste avant son ascension au ciel, Jésus laissa à ses disciples ce commandement. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Faites des disciples de toutes les nations. » Ce qui importe, ce n'est pas le statut social ou religieux, mais de célébrer notre nouveau statut en Jésus-Christ et de lui obéir, quelles que soient nos circonstances de vie. S'il subsistait un doute, Paul réaffirme son point principal une deuxième fois, au verset 20, que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Comme nous l'avons dit, Dieu appelle à lui les gens vivant les réalités très différentes. Et voici quelque chose que je n'ai pleinement reconnu qu'après 20 ans de vie des disciples. Dieu œuvre souverainement dans nos vies bien avant que nous ne devenions ses disciples. Dès nos premières années, il nous forme, il nous prépare pour ses desseins. La famille dans laquelle nous sommes nés, notre origine ethnique, notre histoire, nos expériences de vie, notre éducation, notre formation professionnelle, Dieu rachète tout cela pour ses projets. Dans 1 Corinthiens 1, 26-27, lorsque Paul demande aux croyants, aux chrétiens de Corinthe de considérer leur appel au salut, il leur rappelle que peu étaient sages, puissants ou de nobles naissances selon les critères humains. Il dit « Dieu les a choisis tels qu'ils étaient ». Il a choisi les choses folles pour confondre les sages, les choses faibles pour confondre les fortes. Dieu n'a appelé aucun de nous selon un critère spécial. Tout était basé sur la grâce. Okay, l'appel de Dieu ne reposait sur aucun critère mondain, mais leur est parvenu uniquement par la grâce. Par conséquent, cela discréditait l'appel des dieux s'ils devenaient maintenant des chercheurs de statut. Cet effort même révélait qu'ils considèrent ces choses comme plus importantes que la grâce des dieux. Lorsque nous accordons plus d'importance au statut dans la vie selon les critères mondains, nous rejetons effectivement la valeur de l'appel des dieux au salut par la grâce seule. Je vais le répéter encore, lorsque nous accordons plus d'importance au statut dans la vie selon les critères mondains, nous rejetons effectivement la valeur de l'appel des dieux au salut pour la grâce seule. Cela ne signifie pas que nous, disciples, doivent rester dans des circonstances actuelles, mais nous devons reconnaître que nos circonstances de vie n'entravent pas notre appel à vivre en disciples de Jésus. Notre situation dans la vie ne bloque pas notre salut. Améliorer notre statut mondain n'élèvera jamais notre position devant Dieu, devant Jésus. Je veux partager quelques illustrations vivantes dans notre passage, ce que Paul est en train de dire. Ok, Roman Bondarchuk, alors que poursuivant sa maîtrise, il a continué à servir comme ancien leader de Discovery, responsable du ministère russophone. Il a tout fait sans changer son état. Il est toujours un web développeur. Danny Lee est concepteur d'expérience virtuelle chez EA Sports. Ça doit être le meilleur travail au monde. Tout en poursuivant sa maîtrise, il a continué à servir comme ancien leader de Discovery et responsable du ministère coréen sans changer son état. Soudianta était un ingénieur logiciel dans leader dans sa compagnie. Tout en poursuivant sa maîtrise, il a continué à servir comme leader de Discovery sans changer son état de vie pour étudier et suivre Jésus dans la condition dans laquelle il est. Ernie Kashima est un directeur d'école à la retraite. Tout en poursuivant sa maîtrise, il a servi comme Il n'a pas changé sa condition. Il continue à servir comme un super bénévole supervisant le ministère des rayonnements locaux. Probablement, il est à la nursery maintenant. Ruben Hine, pour beaucoup d'années, il a servi pendant de nombreuses années comme leader de Discovery, responsable du ministère espagnol. Il était analyste des opérations de sécurité pendant beaucoup d'années, mais maintenant, il sert comme un pasteur à temps plein dans l'équipe de mission mondiale à Willingdon. Vous ne pouvez pas changer vos conditions, ce n'est pas nécessaire. Ce qui compte pour chacun d'eux et de nous, ce n'est pas notre état de vie ou notre statut selon les critères mondains, mais notre nouveau statut en Christ. Notre identité est désormais centrée sur notre relation avec Jésus. Dans notre passage, Paul utilise une deuxième illustration. Il parle d'esclavage et d'hommes libres. Cette conversation était très pertinente pour la ville de Corinthe. Un tiers de la population était esclave et un tiers étaient des affranchis. Alors, au verset 21, As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas. Rien à craindre. Mais un esclave peut dire qu'est-ce que tu es en train de dire? Paul, facile de dire pour toi, citoyen romain de naissance. OK. Il y a pourtant bien des choses à redouter. L'esclavage de cette époque était différent de ce qu'il y a eu en Amérique du Nord. À l'époque, les gens se vendaient pour avoir des avantages. À l'époque de Paul, certaines personnes devraient même se vendaient. Les esclaves étaient autorisés à travailler contre rémunération. On leur confiait souvent d'immenses responsabilités. Les chemins vers la liberté étaient généralement initiés par le maître qui offrait la liberté de l'esclave. Alors, ils n'avaient pas de droit en Amérique du Nord. C'était comme des outils. Cela dit, l'appel de Dieu au salut, gélait-il un esclave dans sa condition? Cela ne peut vouloir dire cela. Cela ne peut. Pensez simplement à la vie de Paul et selon son changement radical après sa conversion. Il a changé son ministère, ses relations, sa location physique. Continuons la lecture, 1 Corinthiens 7, 21. As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas. Mais si tu veux devenir libre, mets plutôt à profit cette occasion. Le mot entre parenthèses introduit une clause d'exception. Pour être clair, le statu quo n'est pas divinement ordonné et demeure comme tu es n'est pas la loi des Mèdes ou de Perse, c'est une condition qui ne peut être changée. Le point est celui-ci. Les statuts sociaux-légaux ne comptent pour rien devant Dieu. Si vous êtes esclave et consumé par votre quête de liberté, souvenez-vous qu'aucune condition de vie n'est un obstacle pour vivre votre vocation première, c'est-à-dire vivre en union avec Jésus-Christ et le servir. Mais si l'occasion d'être libre se présente, saisissez-la. Quelle que soit votre condition de vie, restez enraciné dans votre identité fondamentale, méditez cela, faites-en votre passion primordiale dans la vie, non le changement de vos circonstances. Plutôt verset 22, car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Et si nous, ici, nous avons plus explique davantage pourquoi une personne ne devrait pas se préoccuper principalement du statut social ou légal. Quelle est la raison? L'identité fondamentale d'un disciple se trouve dans le Seigneur ou en Jésus. C'est son identité ultime. Et écoutez, en tant que disciple de Jésus, nous sommes libérés de statut. Aucun statut terrestre n'a de signification spirituelle. Aucun statut sur terre n'est comparable à notre statut en Christ. Pourquoi? Nous mourons et nous prenons le nom de Jésus. On reconnaît que nous appartenons à Jésus et nous nous soumettons à lui. Et quand nous le faisons, nous sommes libérés. C'est le statut pour lequel nous mourons sur nous-mêmes pour recevoir Christ qui est notre maître. Notre identité est déterminée par notre inclusion dans la famille de Dieu, dans la maison de Dieu. Cette nouvelle identité en Christ est devenue très réelle pour moi après avoir vécu environ 5 ans au Brésil. Je me suis retrouvé à m'acculturer au Brésil. Je n'étais pas encore pleinement brésilien, mais je devenais de moins en moins canadien. La question qui était à mon identité était-elle enracinée? Si je ne suis pas brésilien et je suis moins canadien, quelle est mon identité? Où est ma maison? Où est-ce que je suis enraciné? Je me souviens, ma fille, on est arrivé en Finlande et on lui a demandé c'est où la maison. Elle ne savait pas quoi répondre. Elle a manqué des mots parce qu'elle étudiait en Finlande, allait à l'université à Montréal. Ses parents vivaient en Vancouver et elle était née à São Paulo. Quand on lui demandait c'est où la maison, peut-être certains d'entre vous le ressentaient. Pour certains d'entre nous qui vivent entre différentes cultures, cette question est des fois difficile. Où est-ce que notre identité est enracinée? C'est où la maison? Et ces questions nous mènent au cœur du message de Paul. Les statuts en Christ comptent pour tout. Ça veut dire tout. Paul écrit, « Vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. Achetés à grand prix, le langage vient directement du marché aux esclaves de Corinthe. » Corinthe était un énorme centre de traite d'esclaves. Qu'est dit Paul? Les disciples de Jésus ont été achetés par Dieu le Père, sauvés par l'esclavage du péché et du diable, mais le prix d'achat était très, très haut. Le prix d'achat était le sang versé de Jésus-Christ. Et Jésus nous a considérés comme valant la peine de mourir pour nous. Voilà ce que notre nouveau statut lui a coûté. Considérez Jésus. Il a été dépouillé de son statut divin pour nous. Il n'a pas essayé de gravir l'échelle du statut. Il est descendu. Philippiens 2, 5. Ayez en vous la pensée qui était en Christ, lui dont la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, mais en devenant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alors une question, si nous sommes des chercheurs de statut, engagés dans la mobilité ascendante et aspirant à améliorer notre statut dans notre société, qui suivons-nous? Si c'est ça notre but, notre passion première, est-ce qu'on peut dire que Jésus est notre maître? Si Jésus est descendu, pourquoi nous voit-il parfois aller dans la direction opposée? Il a perdu son statut pour que nous puissions gagner le nôtre. Une nouvelle identité en lui. Le prix de notre appel a été sa mort sacrificielle sur la croix. Parce qu'il a donné sa vie pour vous, Vous avez un nouveau statut. Nous appartenons à Dieu. Vous appartenez à Dieu, vous êtes enfants de Dieu. Nous sommes un avec Jésus. Toi et moi, nous sommes des temples du Saint-Esprit, le vrai Esprit de Dieu. Nous avons accès direct à Dieu. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous avons été choisis royaux et saints. Nous sommes citoyens des cieux. Citoyens des cieux. Et des fois, nous portons de valeur plus à notre citoyenneté terrestre que notre citoyenneté des cieux. Alors, pourquoi? Et pour vous aider, pourquoi nous avons écrit ça? Alors, pourquoi voudrions-nous jamais nous asservir à nouveau aux critères mondains et aux jugements inconstants des gens autour de nous? Pourquoi nous nous évaluerons jamais sur les critères mondains? Nous n'avons pas besoin de nous, au lieu de demeurer juste sur notre identité en Christ. Si vous êtes disciple de Jésus, vous avez été libéré. Nous avons été... rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Personne ne peut enlever notre identité. Et Paul conclut cette section en répétant son principe de base une troisième fois. Ainsi, frères, que chacun demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Demeurez avec Dieu, demeurez en la présence de Dieu ou devant Dieu. En tant que disciple de Jésus, c'est là que notre identité est enracinée. C'est là que se trouve notre maison. Puissions-nous vivre dans cette identité? C'est là où demeure la liberté. Prions. Ô Père, Seigneur, aide-nous, pas seulement à écouter ta parole, mais à comprendre ce que cela veut dire et que nous puissions recevoir cela dans nos cœurs. Ta parole parle à ce que nous sommes. Nous demandons au Saint-Esprit de nous aider à comprendre ce que cela veut dire, que nous soyons libérés, que nous puissions vivre libres, être ceux que tu nous as appelés d'être, fils et filles de Dieu, pas en train de poursuivre les statuts, mais vivre pour toi et marcher selon ton esprit. Nous demandons cela par ta grâce.